Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour parler de la Chine, ou plus particulièrement du régime et du Parti communiste chinois et de leurs actions à l'étranger, j'ai le plaisir de recevoir deux membres de l'IRSEM, auteurs d'un rapport qui a fait beaucoup parler depuis quelques semaines, intitulé « Les opérations d'influence chinoise », un moment machiavélien qui est sorti à la mi-septembre et qui est disponible en ligne sur le site de l'IRSEM. Tout d'abord, Paul Charron, que les auditeurs du Collimateur connaissent bien, parce que vous êtes souvent venu nous parler de renseignement, et parfois de la Chine aussi, directeur du domaine renseignement, anticipation et menaces hybrides à l'IRSEM. J'ai signalé que vous êtes aussi docteur en études chinoises et spécialiste donc de questions de renseignement. Donc bonjour Paul, bienvenue à nouveau dans le Collimateur.
Bonjour.
Et ensuite, le deuxième co-auteur et invité n'est autre que Jean-Baptiste Jean-Genevillemer, le directeur de l'IRSEM, alors spécialiste de beaucoup de choses, d'éthique et de droit de la guerre notamment, mais je vais préciser que vous vous intéressez aussi depuis un moment aux opérations d'influence et aux manipulations de l'information, puisque vous aviez notamment participé à un rapport intitulé « Les manipulations de l'information, un défi pour nos démocraties » en 2018, et vous étiez notamment penché sur les tentatives d'influence russes dans les cycles électoraux, en particulier français. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour Alexandre.
Je signalais aussi par souci de transparence, même si je l'ai déjà fait souvent, que en tant que directeur de l'IRSEM, vous assurez la supervision éditoriale du podcast. C'est-à-dire que globalement, c'est avec vous que je discute des invités et des thèmes d'émission. C'est d'ailleurs ce qui explique que vous ayez réussi aussi longtemps à échapper à un passage dans le podcast, parce que je peux dire que ça fait 2 ans et demi que le Collimateur existe, et ça fait donc 2 ans et demi que j'essaye de vous convaincre de passer dans l'émission, notamment sur des questions d'éthique de la guerre et d'usage des drones en particulier. Vous n'avez même pas fait un dans le bunker depuis le début du podcast, alors que vous avez quand même dirigé toute une collection au PUF sur les séries télévisées. C'est dire mes capacités de persuasion sur le sujet. Il aura donc fallu, pour que vous y consentiez, la publication de ce rapport massif de plus de 600 pages, fruit de plusieurs années d'enquête. Je peux dire, pour vous fréquenter régulièrement tous les deux dans les couloirs de l'IRSEM, que ça fait longtemps que ça vous occupe, cette affaire. Et Jean-Baptiste, plusieurs fois je vous ai croisé visiblement en manque de sommeil, et vous m'avez lâché que ce rapport c'était votre deuxième thèse. Et de fait, par le volume et par la profondeur, ça y ressemble, puisqu'on peut dire que c'est à la fois une monumentale synthèse et un travail d'investigation, alors l'investigation essentiellement en open source, ce qui est un exercice particulier, mais on y reviendra, sur ce que fait la Chine en dehors de ses frontières pour façonner son image et ses représentations à l'étranger. C'est ce qu'on peut appeler donc globalement les opérations d'influence. On parle souvent dans cette émission de la montée en puissance capacitaire de la Chine. On avait notamment consacré une émission à la marine chinoise, montée en puissance qui est très rapide, mais là ce que vous détaillez c'est en quelque sorte l'autre volet de cette montée en puissance, dans une dimension qui n'est pas non militaire, parce qu'on va en reparler, mais l'armée chinoise, l'armée populaire de libération, l'APL, est un acteur de tout ça, mais disons dans une dimension moins facilement visible et appréhendable que le nombre de missiles de croisière ou de porte-avions, une dimension plus politique et informationnelle, et donc vous êtes intéressé moins aux chars d'assaut qu'aux réseaux sociaux en quelque sorte. Alors, la première question, ce serait celle de la genèse de ce rapport. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a déclenché ce travail de synthèse et d'enquête à deux? Est-ce que c'est un événement précis? Est-ce que c'est une somme d'évolution? Ou plutôt peut-être un intérêt théorique et une curiosité sur ce volet de l'action extérieure chinoise, peut-être symétriquement à ce qui a pu être fait par un tas d'acteurs différents au sujet de la Russie depuis quelques années? Jean-Baptiste Jean-Genevillemer?
Le rapport est le fruit d'un contexte que vous avez rappelé en introduction. D'abord, la publication du rapport CAP-CIRSEM, donc avec le Centre d'analyse de prévision de stratégie du Quai d'Orsay en 2018 sur la manipulation de l'information, qui est un rapport qui n'était pas focalisé sur un pays, mais qui citait de nombreux exemples russes. Vous l'avez aussi rappelé, parce qu'à l'époque, en 2017-2018, quand on y travaillait, c'était les cas qui étaient les plus documentés. Et dans ce rapport, il y avait quand même 2 pages de mémoire sur la Chine, dont un encadré sur le point de vue australien. Et il nous a semblé, en sortant du rapport, donc en 2018, fin 2018, début 2019, que c'était vraiment un point à creuser. Et l'autre élément de contexte, c'est en 2019 l'arrivée, le recrutement à l'IRSEM de Paul Charron, qui se trouvait être un spécialiste et de la Chine et des services de renseignement, et qui était donc bien placé pour conduire cette recherche à l'IRSEM avec moi. Donc l'idée du rapport est née de la coïncidence entre ces deux éléments contextuels.
Paul Charron, est-ce que ça faisait longtemps que ça vous travaillait, ce genre de sujet, ou est-ce que c'est aussi, disons, la coïncidence, enfin, disons, le contexte de votre arrivée à l'IRSEM qui a vraiment précipité ce questionnement, quoi?
Ouais, un petit peu les deux, sans doute. C'est forcément un sujet que j'avais déjà travaillé, mais c'est l'arrivée, le contexte, donc l'arrivée à l'IRSEM, l'existence de travaux précédents sur d'autres pays, et la conscience aussi, l'envie de compléter ce qui avait déjà été fait, alors essentiellement à l'étranger d'ailleurs, sur ces questions d'opérations d'influence chinoise, parce qu'il y a eu énormément de travaux ces dernières années. Alors, d'abord sur des questions plutôt de propagande, hein, je pense notamment aux travaux d'Anne-Marie Brady, mais ensuite sur les opérations d'influence, sur l'action de la Chine sur les réseaux sociaux aussi. Mais ces travaux étaient d'une part relativement dispersés et ne traitaient qu'une partie du sujet, puisque, par exemple, la dimension doctrinale, la dimension de la pensée stratégique était souvent laissée de côté, tout comme la question des acteurs. C'est-à-dire qu'il y a énormément de travaux qui se penchaient sur le contenu de ces opérations, en gros sur ce que les Chinois pouvaient faire à l'étranger, en laissant de côté qui était à la manœuvre, les acteurs chinois, les agences qui étaient chargées de ces opérations.
Jean-Baptiste ?
Oui, il faut préciser qu'au début, comme on sortait du rapport sur les manipulations d'information, on s'est dit on va faire un travail similaire focalisé sur la Chine. Et donc on est parti dans l'optique de travailler sur les manipulations d'information d'origine chinoise. Et assez rapidement, on a constaté que le cas chinois était particulier par rapport aux autres, dans le sens où les vecteurs, les différents leviers étaient beaucoup plus imbriqués, et qu'en réalité, on ne pouvait pas parler juste des manipulations d'information, mais il fallait parler plus largement des opérations d'influence. Donc on a élargi notre focale assez rapidement, et c'est aussi la raison pour laquelle le rapport a pris autant de temps et il est aussi gros. Et au fond, le chapitre sur les manipulations d'information, là désormais c'est juste une sous-partie d'une des quatre principales parties, et c'est un chapitre qui fait quelques dizaines de pages, donc sur 650, donc c'est plus le cœur du sujet. C'était notre point de départ, mais on a dû élargir à cause de l'imbrication de la pensée chinoise en matière d'influence.
Alors simplement pour terminer sur ce contexte, ça pose aussi la question avec les acteurs, en tout cas les pouvoirs publics français. Je veux dire, tous les auditeurs sont bien placés pour savoir que l'IRSEM a un rattachement au ministère des Armées, même si l'intérêt d'avoir un institut comme ça, c'est de lui laisser une liberté d'action et d'étude. Mais le rapport ensuite, vous l'avez remis à la ministre, donc il y a une intrication évidente avec l'État français. Donc voilà, est-ce qu'il y avait une demande du ministère quelque part à la genèse, ou est-ce que vous êtes en quelque sorte saisi de la chose tout seul et qu'ensuite vous leur avez donné le produit fini en espérant que ça leur ferait plaisir et que ça leur serait utile? Jean-Baptiste.
Non, ce rapport n'est pas une commande. Il n'a jamais été une commande, pas plus d'ailleurs que le rapport précédent, qui a été à tort présenté de cette manière par certains observateurs malveillants lorsqu'il est sorti en 2018. C'était déjà une initiative. En fait, il faut comprendre que 80% de ce que fait l'IRSEM, c'est de l'autosaisine. C'est-à-dire que les chercheurs de l'IRSEM proposent leurs propres sujets, et c'est de cette manière qu'on peut contribuer au travail du ministère, précisément parce qu'on arrive à poser des questions et à mettre sur la table des sujets qui ne sont pas forcément ceux auxquels le ministère pense déjà. Si on faisait que répondre à des commandes, on ne jouerait pas notre rôle de ce point de vue. Donc il y a certains travaux de l'IRSEM qui sont ce qu'on appelle des études internalisées et qui répondent à des commandes, mais ce n'est pas du tout le cas de ce genre de travail, donc que ce soit celui de 2018 sur la manipulation de l'information ou celui-ci sur les opérations d'influence chinoise. Ce n'était pas une réponse à une commande, c'était une initiative, comme je l'ai expliqué, et qui était liée à l'arrivée de Paul et à la volonté de travailler sur cet acteur.
Alors ensuite, tout ça pose aussi la question de la méthode d'enquête. Alors il suffit de lire le rapport. Alors, il est évidemment en ligne, en PDF, sur le site de l'IRSEM. D'ailleurs, je vais en profiter pour dire à ceux qui seraient intimidés par les 600 pages et quelques que c'est un PDF qui est très bien fait. C'est-à-dire qu'on navigue facilement à l'intérieur par des liens, par des marque-pages, et que donc les auditeurs peuvent lire telle ou telle partie ou tel ou tel chapitre qui les intéresserait spécifiquement très facilement. Il n'y a pas besoin d'aller de la première à la dernière page du rapport. Et donc, il suffit de le lire et de regarder les notes de bas de page pour voir que tout est de l'OSINT, c'est-à-dire de l'Open Source Investigation, qui est une des manières de faire du renseignement les plus dynamiques à l'heure actuelle. Paul, vous étiez venu nous en parler pour votre premier passage dans le collimateur. Et donc, pour le dire clairement, bon, tout est sur Internet, quoi. Il y a quelques entretiens que vous avez faits avec des responsables politiques ou de renseignement étrangers, mais globalement, n'importe qui avec une connexion Internet et de temps en temps avec une connaissance du chinois a accès à tout et aurait pu voir tout ça et toutes ces opérations d'influence chinoise, même si évidemment on n'a pas tous le temps de se consacrer à ça, et c'est donc l'intérêt d'une telle synthèse que de mâcher un peu le travail au lecteur. Et donc pourquoi est-ce que vous avez fait comme ça, puisque après tout on aurait pu imaginer que vous utilisiez d'autres sources, par exemple en lien avec d'autres services de l'État qui, j'imagine, doivent connaître des choses sur les opérations d'influence chinoise. Est-ce que c'était une nécessité ou une facilité, puisque tout est en ligne, ou au contraire un désir peut-être que le lecteur puisse aller directement à la source de tout ce que vous mentionnez ?
Paul. Alors il y a plusieurs sources qu'on a exploitées pour ce rapport. Il y a effectivement des sources qui sont essentiellement des sources en ligne, donc la production du parti hein, ou d'autres agences de l'État. Le parti produit beaucoup. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Et le problème, c'est qu'on ne le lit pas assez. D'où, par exemple, on pourra y revenir peut-être tout à l'heure, mais l'idée que la Chine ne serait pas une puissance révisionniste, ce qu'elle est pourtant, et le parti ne s'en cache pas tant que ça. Donc on a exploité toutes ces sources qui, parfois, sont laissées un peu...
Une puissance révisionniste, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que c'est une puissance qui considère que le système international actuel n'est pas satisfaisant, et qu'il doit être changé. C'est-à-dire que les institutions, les normes, doivent ressembler au système chinois.
Donc ils sont assez clairs là-dessus, quoi.
Oui, c'est assez clair. C'est-à-dire que... Alors bien, c'est pas dit aussi clairement, bien entendu, mais...
Ils disent pas on va faire un grand parti communiste chinois à l'échelle de la planète.
Ça non, mais en tout cas, ils expliquent bien qu'il y a une ambition aujourd'hui qui ne peut pas être simplement la pérennisation du régime, même si ça reste l'objectif numéro un. Bien sûr, d'abord, il faut que le parti reste au pouvoir. Mais au-delà de ça, il y a des ambitions régionales, et qui ne sont même plus régionales, qui sont globales. Et depuis 2017 au moins, les discours de Xi Jinping, la production du parti, les travaux de l'école centrale du parti sont très clairs sur cette question. Il y a une ambition globale du Parti communiste chinois. Voilà. Donc l'idée, c'était vraiment de présenter aussi, d'exploiter toutes ces sources qui sont parfois un petit peu négligées. Mais ce ne sont pas les seules, c'est aussi tout ce qui est en ligne finalement, non seulement sur les réseaux sociaux, en langue occidentale, donc tout ce qui se passe sur Twitter en anglais, sur Facebook, Instagram, etc., mais aussi sur l'Internet sinophone, réseaux sociaux comme sites. Et des sites très variés, des sites de bases de données académiques, hein, où des officiers de l'APL, par exemple, écrivent des articles. Et donc, on peut apprendre beaucoup de choses sur les sujets d'intérêt de l'APL, l'intelligence artificielle, la guerre des cerveaux, le pouvoir discursif, etc. Toutes ces théories qui sont produites aujourd'hui par l'APL. Mais aussi marchés publics, des passations de marchés publics qui sont disponibles sur Internet et dans lesquels on peut apprendre beaucoup de choses sur l'organisation de l'APL, sur des officiers qui dirigent des bases, etc. Toutes ces ressources sont assez peu exploitées. D'abord parce que ça nécessite un peu de compétences, pas forcément beaucoup, mais un peu de compétences en moyens au SINT. Et puis surtout, ça demande un accès à la langue chinoise. Et on a essayé du coup de rassembler un petit peu tous les petits bouts du puzzle pour atteindre ce résultat. Et puis il y a quand même une autre partie qu'il faut mentionner, c'est les missions que nous avons pu réaliser un petit peu partout sur la planète, parfois ensemble, parfois séparément, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
Jean-Baptiste ?
Oui, pour revenir sur l'OSINT, je crois qu'il est important de dire que le grand avantage de l'OSINT, c'est qu'il montre avoir des résultats qui sont démontrables, sourcés, donc reproductibles. C'est-à-dire que le lecteur peut reconstituer le cheminement, il peut refaire l'enquête en même temps qu'il lit. Donc il n'est pas obligé de croire parce qu'on lui dit qu'on a fait un entretien avec une source anonyme, ce qui est complètement douteux.
Avec une source de renseignements chinois dans un parking obscur et perdu sans témoin.
Par exemple, c'est un raisonnement, une démonstration qui suit plusieurs étapes qui à chaque fois sont sourcées et il suffit de suivre la démonstration pour finalement en être convaincu. Donc le pouvoir de conviction de l'OSINT est très grand précisément parce qu'il donne à voir ses preuves. Donc c'est un grand avantage de mobiliser l'OSINT dans un travail de ce type, c'est tout simplement que c'est des sources qui sont ouvertes, qui sont reproductibles et que chacun peut s'approprier.
Et je veux dire, il y a aussi un grand nombre d'enquêtes et d'articles de presse qui sont présents dans votre note de bas de page, ce qui permet, notamment étrangers, ce qui permet au passage de s'apercevoir qu'il y a des pays qui sont tout à fait en mire des opérations d'influence chinois et dont les sphères journalistiques ont fait ces enquêtes depuis assez longtemps, et c'est intéressant que vous les compiliez, qu'il y ait des liens et qu'on puisse y accéder très facilement. Paul Charron ?
Oui, il y a effectivement des travaux journalistiques extrêmement précieux et sur lesquels nous sommes appuyés. L'intérêt de ce rapport, c'est aussi de montrer la puissance de l'OSINT, c'est-à-dire que sur certains points du rapport, sur certains sujets, on va sans doute plus loin, plus facilement que les services de renseignement. Tout simplement parce que les processus, les procédures des services de renseignement sont tellement complexes, tellement lourdes et aussi parfois risquées, qu'elles ne sont pas toujours réalisables. Alors que l'OSINT permet d'accéder de manière très sécurisée, finalement, hein, depuis son fauteuil, dans son bureau, juste avec une bonne connexion Internet, un bon VPN, on peut faire beaucoup de choses, en toute sécurité. Et donc, il y a non seulement une puissance de l'OSINT qui est valable pour les chercheurs, mais qui est valable aussi pour un certain nombre d'institutions qui, peut-être, devraient investir de manière plus importante dans ces outils. Et c'est très important aujourd'hui pour les chercheurs parce que l'OSINT, c'est clairement un moyen de contourner les difficultés d'accès au terrain. On sait bien qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de pays, la Chine, mais aussi la Russie et d'autres, où ça devient difficile pour les chercheurs en sciences sociales d'aller faire du terrain, a fortiori quand on travaille sur des sujets un petit peu sensibles, notamment les forces armées, par exemple. Et donc là, on a un moyen de contourner ces difficultés d'accès et d'atteindre, de recueillir des informations extrêmement précieuses.
Alors simplement, on peut dire, vous avez fait un certain nombre de passages médiatiques, mais notamment les médias sont beaucoup attachés à ce que vous avez découvert sur la base 311, donc qui serait une base de l'armée chinoise, en tout cas de l'appareil d'État chinois, pour faire de la désinformation, faire des opérations d'influence à l'étranger. On peut dire simplement, il suffit de lire le rapport, vous servez de Google Maps et d'adresse postale. C'est pas un truc, vous êtes, c'est pas des compétences de James Bond qui vous ont amené à ces résultats-là. Et effectivement, on voit à quel point ça peut être éventuellement, si ce n'est reproductible, au moins on peut s'en inspirer dans différents domaines. Alors, maintenant, si on entre peut-être un peu plus dans le cœur du rapport, évidemment, on va pas pouvoir faire entrer 650 pages en plus très détaillées dans une heure d'émission. Le plus simple, c'est évidemment de lire tout ou partie du rapport, mais on peut quand même essayer de restituer, disons, la philosophie et la logique d'ensemble, à la fois du rapport et en même temps des opérations chinoises qu'il détaille, et ensuite, on s'intéressera à quelques cas particuliers. Et pour ça, la question première, c'est évidemment le pourquoi de ces actions et de ces opérations chinoises, disons, dans la sphère informationnelle et de la manière dont elles ont évolué depuis quelques mois ou quelques années. C'est-à-dire, bon, la logique et la philosophie qui se cachent en dessous pour les acteurs et les décideurs chinois. Et c'est notamment, vous avez mentionné l'expression tout à l'heure, c'est une attention à ce que vous appelez donc un pouvoir discursif. Et j'ai notamment découvert avec un certain amusement que ça vient apparemment de l'influence de Michel Foucault dans les milieux décisionnels chinois. Alors c'est pas la première fois que j'entends dire du mal de Foucault et de ce qu'on appelle parfois la French Theory, mais généralement c'est plutôt au sujet de l'influence sur les campus américains que dans les quartiers généraux chinois. Donc expliquez-nous peut-être la centralité de cette notion, de ce souci du pouvoir discursif.
Paul Charron. Il faut nuancer l'importance de cette théorie. Effectivement, alors Foucault est un auteur, un des auteurs français sans doute les plus connus en Chine, mal connu, diraient certains, c'est sans doute le cas, mais en tout cas, il a inspiré d'abord les diplomates et plus récemment les militaires de l'APL. L'idée de ces auteurs hein, qui réfléchissent à partir des thèses de Foucault, alors ils reprennent notamment sa leçon inaugurale au Collège de France, donc l'ordre du discours, dans lequel Foucault montre, enfin en tout cas c'est comme ça que les Chinois l'interprètent, c'est-à-dire que contrôler la parole, c'est prendre le pouvoir. Et donc en prenant le pouvoir, on empêche son adversaire de s'exprimer sur la scène internationale. Et les Chinois estiment que les Américains les empêchent de s'exprimer. Et dans la mesure où cette notion de pouvoir discursif, elle est venue pour remplacer la notion de soft power. Cette notion avait connu un engouement assez important après la publication, enfin après la traduction du livre de Joseph Nye en Chine. Mais assez vite, les Chinois se sont rendus compte que c'était un échec politique et qu'il fallait trouver de nouvelles sources d'influence. Et c'est à ce moment-là que la notion de pouvoir discursif a émergé.
Un deuxième élément qui est, je crois, très important, c'est celui de l'objectif ou du public qui est visé par ces opérations. Et là, vous mobilisez une notion qui est centrale apparemment pour le Parti communiste chinois, même historiquement, mais qu'on connaît assez peu en France, en tout cas moi que je connaissais pas, qui est celle de front uni. Alors c'est-à-dire, si je résume très schématiquement, un objectif de front au sens presque du front populaire, quoi, c'est-à-dire d'union au-delà du noyau dur, c'est-à-dire pas les Chinois qui sont au PCC, pas les même si la propagande interne c'est toujours important évidemment, mais c'est-à-dire ceux qui sont autour, hein, un public chinois qui serait pas totalement acquis, mais qu'on pourrait séduire et qui serait donc l'objectif premier de ces opérations d'influence chinoise. Paul Charron ?
Oui. Alors le front uni, effectivement, c'est une notion très ancienne qui n'est pas à proprement parler chinoise. Hein. C'est une notion marxiste et surtout léniniste. Donc on la trouve notamment dans La maladie infantile du communisme de Lénine. Et c'est une stratégie de conquête du pouvoir d'abord. C'est-à-dire que pour conquérir le pouvoir, eh ben, parfois les mouvements communistes ont besoin de s'allier avec des mouvements non communistes. Et ce qui donne des fronts unis. Et cette théorie léniniste a été appliquée notamment par Mao Zedong en Chine. Ça a conduit notamment au premier front uni, donc, c'est-à-dire cette alliance entre 1924 et 1927 entre les nationalistes et les communistes. Puis un deuxième front uni pour lutter contre l'invasion japonaise.
Alors, si transposé à aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne ?
Mais, si vous voulez, après 49, donc après la prise du pouvoir par les communistes, le Front uni a été institutionnalisé et est devenu un moyen, si vous voulez, de lutter contre les ennemis du parti. C'est-à-dire que le Front uni, il faut se le représenter comme une succession de cercles concentriques. Donc vous avez le parti, autour vous avez effectivement, comme vous le disiez, les Chinois qui ne sont pas membres du parti, et donc il faut rallier au projet du parti. Donc il faut éviter que ne se constitue une force sociale d'opposition et qui viendrait contester l'hégémonie du PCC. Et puis ensuite, on va étendre ces cercles au-delà du territoire chinois. Donc ça va être d'abord les diasporas chinoises qui constituent une menace hein, pour l'hégémonie du parti, puisque cette diaspora, elle maîtrise la langue chinoise, elle maîtrise les codes culturels chinois, et donc elle est susceptible, mais elle a été exposée, en tout cas dans les démocraties, aux valeurs libérales, et donc elle est susceptible d'importer ces valeurs en Chine, et donc de menacer l'hégémonie du PCC. Et donc il faut aller mener une espèce de guerre cognitive, de guerre des récits, de guerre de réseau, pour rallier ces populations au projet du parti. Et puis on peut étendre ensuite le cercle au-delà, dans les sociétés d'accueil.
Mais là où je trouve ça très important, c'est que ça peut aider à comprendre certaines choses qui peuvent nous paraître des maladresses ou des erreurs de la propagande ou disons de l'influence chinoise. On en reparlera plus en détail, mais il y a certaines choses qui nous heurtent, nous. Mais en fait, la raison que vous expliquez bien, c'est qu'en fait, c'est pas nous l'objectif, le public visé, c'est pas nous, en tout cas, premièrement, c'est qu'il y a des cercles qui viennent avant nous, et du coup, il faut pas juger cette propagande, cette influence, à raison de ce qu'elle fait sur nous, mais à ce qu'elle fait peut-être des cercles plus proches de l'origine de ces opérations d'influence. Jean-Baptiste ?
Oui, je voulais juste préciser que aussi une des raisons pour lesquelles la notion de front uni est particulièrement difficile à comprendre, c'est qu'elle est polysémique, elle désigne plusieurs réalités, non seulement un concept, comme Paul vient de le montrer, un système même, mais c'est aussi une institution précise, puisque ça renvoie à ce qu'on appelle ce qu'on présente dans la partie sur les acteurs, au département du travail du Front Uni, le DTFU. Et le DTFU a 12 bureaux qui désignent en réalité les cibles principales. Donc, comme Paul l'a dit, il y a naturellement la diaspora, donc le bureau des affaires des Chinois outre-mer, mais il y a aussi les affaires religieuses, il y a aussi les minorités ethniques, il y a un bureau spécifiquement sur le Xinjiang. Ces 12 bureaux désignent les cibles principales du DTFU, qui sont les cibles prioritaires de l'influence chinoise dans le monde. Et comme vous disiez, Alexandre, ces cibles sont prioritairement liées à la diaspora. C'est-à-dire que ce n'est pas d'abord les opinions publiques occidentales, en l'occurrence, par exemple françaises, américaines, canadiennes ou britanniques ou australiennes, qui seraient les destinataires de ces opérations d'influence. Et c'est la raison pour laquelle il faut... pas se tromper quand on analyse le phénomène dit des loups guerriers, des diplomates loups guerriers, et qu'on se dit mais on ne comprend pas parce que c'est tellement contre-productif, ces diplomates qui scient sur la branche sur laquelle ils sont assis, parce qu'ils se mettent la population locale à dos, ils font pas leur travail d'ambassadeur, etc. En réalité, leur objectif n'est pas là. Leur objectif est de plaire à Pékin. Et leur objectif est d'envoyer un message non seulement à Pékin, à la population chinoise en Chine, mais aussi aux diasporas chinoises partout dans le monde, précisément parce que, comme Paul l'a dit, ce sont eux qui sont considérés comme les plus dangereux, parce que ce sont ceux qui sont susceptibles d'importer dans les allers-retours fréquents, dans les liens familiaux, professionnels qu'ils continuent d'avoir avec la Chine continentale. Et ce sont eux qui sont susceptibles d'importer des idées corruptrices, démocratiques et libérales en Chine. Et c'est ça que le parti veut éviter, d'où cette priorité donnée à la diaspora.
Alors ça, c'est le cadre général et le cadre presque conceptuel de ces opérations d'influence. Maintenant, si on essaye de saisir un peu le contexte et, disons, l'évolution depuis quelques mois ou quelques années, presque depuis l'extérieur, c'est-à-dire on peut faire plusieurs hypothèses sur cette montée en puissance des opérations d'influence que vous faites. Alors, il y en a un certain nombre, mais globalement, ça varie entre l'opportunisme, l'excès de confiance et, au contraire, l'espèce d'insécurité au sein des cercles dirigeants chinois qui fait qu'ils seraient amenés à surcompenser cette insécurité par une suragressivité extérieure. Alors comment est-ce qu'on peut appréhender en quelque sorte ce contexte, ces évolutions depuis quelque temps ? Paul Charron ?
Oui, alors effectivement, l'intérêt du rapport, c'est qu'on présente différentes hypothèses. Moi, je pencherais pour l'opportunisme. En gardant à l'esprit que...
Donc l'opportunisme, c'est-à-dire qu'il y a des troubles dans le système international,
oui.
Les démocraties sont en crise,
c'est-à-dire
autant
que
pousser ses pions...
Pour reprendre les termes du parti exact, le parti est dans une période d'opportunité historique. Voilà. Et donc il faut saisir cette opportunité. Cette opportunité, elle s'inscrit toutefois dans un schéma... qui est celui d'une stratégie de la Chine. C'est-à-dire que c'est pas simplement, comme je le disais tout à l'heure, la pérennisation du régime. Bien sûr, c'est l'objectif numéro un, mais cette pérennisation du régime, elle a partie liée avec le reste du monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la démocratie reste une alternative viable, ça menace le régime. Et donc, si on peut démonétiser cette alternative ailleurs dans le monde aussi, et c'est pour ça que, par exemple, pendant la crise de la Covid, Les médias chinois n'ont cessé de montrer à la population chinoise à quel point les démocraties étaient incapables de gérer cette crise sanitaire, contrairement au système chinois qui, lui, était particulièrement efficace. Voilà, il y a vraiment cette ambition de porter atteinte à l'alternative démocratique. Donc oui, il y a une ambition et globale et une opportunité historique. Et cette opportunité, elle repose sur quoi ? Ces dernières années, le Trumpisme, qui est vraiment le signe pour les Chinois de l'effondrement américain, le Brexit, qui dit la même chose d'une partie de l'Europe, bien évidemment la Covid, avec la démonstration que nos pays sont incapables de gérer la crise sanitaire.
Jean-Baptiste Jean-Jean Dumère.
Oui, je crois qu'il faut insister sur le fait que ces différentes options que vous présentez et que Paul a détaillées ne sont pas mutuellement exclusives. Il y a une dimension opportuniste, il y a aussi, comme vous disiez Alexandre, une sorte d'hubris quelque part, c'est-à-dire de prise de conscience et même d'excès de confiance en soi par rapport au fait que la Chine est en passe de devenir la première puissance mondiale à plusieurs égards, pas encore militaire, mais en tout cas qu'elle taquine les États-Unis de ce point de vue. Et puis il y a aussi une forme d'insécurité. Insécurité intérieure, et ça Paul pourra en parler mieux que moi, mais aussi et par voie de conséquence une forme d'insécurité sur la scène internationale, c'est-à-dire que certains estiment peut-être à tort, hein, j'en sais rien, mais en tout cas c'est une interprétation qui est défendue, que la Chine n'est pas, contrairement aux apparences, une puissance comment on pourrait dire, rising, une puissante émergence, enfin émergée même déjà, mais plutôt une puissance déclinante. En tout cas, c'est une thèse qu'on commence à voir, et que c'est la raison pour laquelle elle serait plus agressive. C'est précisément parce qu'elle est, ou elle prend conscience de ses propres vulnérabilités et du fait qu'elle serait non plus en train d'émerger, que l'émergence serait derrière elle, mais qu'elle serait sur un pic, sur une crête, et la guetterait au coin un potentiel déclin. Donc c'est aussi cette forme d'insécurité qui s'articule avec un excès de confiance en soi, une forme d'hubris et un opportunisme qui est lié aux problèmes que connaissent les démocraties libérales. Et tout ça peut se combiner. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Je crois que la réalité est sans doute dans la combinaison de ces différents facteurs.
The world today seems absolutely crackers. With nuclear bombs to blow us all sky high. There's fools and idiots sitting on the trigger. It's depressing, and it's senseless, and that's why. I like Chinese. I like Chinese. They only come up to your knees, yet they're always friendly and they're ready to please. I like Chinese. I like Chinese. There's 900 million of them in the world today. You'd better learn to like them, that's what I say. I like Chinese. I like Chinese. They come from a long way overseas. But they're cute and they're cuddly and they're ready to please. I like Chinese food. The waiters never are rude. Think of the many things they've done to impress. There's Maoism, Taoism, I Ching and chess. So I like Chinese. I like Chinese. I like the Chinese for free. There's Zen, they're ping pong, they're yin and yang li. I like Chinese thought, the wisdom that Confucius taught. If Darwin is anything to shout about, the Chinese will survive us all without any doubt. So I like Chinese. I like Chinese.
Maintenant, si on entre un peu dans le détail de ces opérations, au-delà du contexte, au-delà de la philosophie générale, peut-être s'attarder un dernier moment sur un dernier concept qui est important parce qu'il donne le cadre général, c'est le concept des trois guerres pour la Chine, pour disons l'appareil d'État chinois. On va essayer de faire la distinction. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà ce que c'est ces trois guerres, ce qu'elles sont et comment elles se déploient en quelque sorte ? Paul Charon.
Oui, alors pour bien comprendre les trois guerres, il faut, même brièvement, il faut remonter à la conférence de Gutian en 1929, dans laquelle Mao explique, c'est un moment où Mao est en train d'essayer de prendre le pouvoir au sein du parti, il est encore plutôt un dirigeant secondaire, et il explique que contrairement à ce que pensent d'autres dirigeants chinois, le but de l'armée rouge n'est pas de faire la guerre. En tout cas, le premier but de l'armée rouge n'est pas de faire la guerre, mais d'accroître la puissance politique, la capacité politique du parti. Et ça permet de rappeler d'abord que l'APL, c'est le bras armé du parti. C'est pas une armée nationale. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On n'a pas affaire à une armée nationale. On a affaire au bras armé du parti et qui a d'abord pour mission de faire du travail politique, donc d'accroître la capacité d'action du parti. Et ces trois guerres, cette doctrine qui émerge en 2003, elle incarne, elle donne corps à cette idée défendue par Mao en 1929. Et du coup, elle se décline du coup en trois volets, hein, donc une guerre de l'opinion publique, une guerre psychologique et une guerre du droit, qui ont vocation, qui sont des moyens d'action qui sont sous le seuil. Hein, on est essentiellement dans du non cinétique. C'est des moyens d'action qui peuvent être utilisés en temps de paix comme en temps de guerre. Et qui vise à imposer un récit chinois des événements, à préparer la guerre.
Alors je vais juste dire, guerre de l'opinion publique, on voit assez bien, c'est ce dont on parle
assez souvent. C'est imposer le récit.
Voilà, c'est imposer un récit chinois. Mais alors c'est peut-être les deux autres guerres dont on parle un peu moins souvent et qui sont assez stimulantes. Alors peut-être d'abord, donc cette guerre psychologique, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'ils essayent de voir dans notre inconscient ? Quel est l'objectif par cette guerre psychologique ?
Alors, la guerre psychologique, c'est avant tout... Alors ça peut prendre plusieurs formes. Hein. Ça peut être une guerre psychologique de type coercitive, par exemple. Donc ce qu'ils font, par exemple, contre la population ouïghour avec de l'internement, etc. Ça peut être aussi considéré comme de la guerre psychologique en un sens. Mais ça peut être des versions beaucoup plus subtiles qui vont, par exemple, consister à anéantir toute envie de combattre chez l'adversaire. Ce qu'ils font, par exemple, quand ils déversent à Taïwan des informations disant que l'armée taïwanaise est une armée de pacotille, qu'elle est incapable de rivaliser avec l'armée chinoise, que les officiers sont des incompétents, etc. Bref, que l'armée taïwanaise s'effondrerait en quelques heures face à la PL. Ça, c'est le type de guerre psychologique que les Chinois peuvent mener.
C'est-à-dire déprimer les cibles, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est aussi quelque part une modernisation de ce qu'on trouvait dans la Chine classique de la période des royaumes combattants, qui était l'école de la parole, où on allait faire la guerre dans l'esprit de l'adversaire. Et on en a une évolution très récente avec des travaux autour, alors avec l'intégration dans cette guerre psychologique de toute la dimension cognitive. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'anéantir la volonté de combattre de l'adversaire, mais aussi de façonner sa façon de percevoir son environnement, sa façon d'agir, sa façon de se conduire, la capacité à modeler ses valeurs. Et ça, c'est tout ce que les Chinois appellent donc la guerre cognitive, et qu'ils appellent aussi, je pense notamment aux travaux de Zhang Huafeng, qui porte sur la guerre des cerveaux, ce qu'ils appellent la guerre des cerveaux, et qui vise là aussi, via des moyens liés à l'intelligence artificielle, au deep learning, etc., à atteindre les capacités cognitives, vraiment, au sens de perception, de l'adversaire.
Mais alors, par exemple, où, quoi, comment ?
C'est très difficile. C'est vraiment une des dimensions que, pour l'instant, on a du mal à appréhender. D'abord parce qu'on a essentiellement des travaux côté chinois qui sont théoriques. Donc on voit encore difficilement quelle forme ça peut prendre, hormis ce que je viens de vous dire sur ce qui est fait contre l'armée taïwanaise, contre les Ouïghours. On a eu ce type de déploiement aussi dans les accrochages avec les Indiens. Mais ça reste pour l'instant assez abstrait. Et on n'a pas d'application manifeste de ce type de doctrine. Mais il est important de maîtriser, malgré tout, ce que les Chinois pensent de ce point de vue-là.
Jean-Baptiste ?
Ouais, pour illustrer avec un exemple peut-être assez concret et en même temps très contemporain, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, un exemple de guerre psychologique, c'est le cas des exercices militaires et notamment des sorties aériennes, donc de l'armée populaire de libération, de l'armée de l'air chinoise, dans la DIZ, qui est la zone d'identification de défense aérienne taïwanaise.
Il semblerait depuis quelques jours, en fait, depuis l'anniversaire début octobre de la République populaire de Chine, apparemment ils se sont lâchés.
Oui, alors il y a une recrudescence régulière dans les dernières années de ces sorties, mais effectivement depuis le 1er octobre, on a eu 145 sorties en 4 jours, d'abord 38 le 1er octobre, jour anniversaire, qui était en soi un record. Le lendemain, le record a été battu à 39. Après, troisième jour, on est tombé à 16. Et là, le 4 octobre, on est monté à 52, donc record absolu, en tout 145 à 4 jours. Le but de ce genre de sortie...
On peut préciser qu'on enregistre ce podcast le 4 octobre. On verra ce que ça donne.
Le 5 octobre, donc c'était hier. Effectivement. Donc, le but de ce genre de sortie, il est multiple. Hein. C'est d'exercer une pression, c'est de l'intimidation, c'est aussi de pousser l'autre côté, donc c'est-à-dire en l'occurrence les forces taïwanaises à l'erreur, à l'incident, ce que pour l'instant elles s'abstiennent de faire. Elles sont extrêmement prudentes et elles ont raison, elles réagissent bien. Mais c'est aussi une manière de contribuer à la guerre psychologique, et on a un exemple particulier de ça qui date de 2016, lorsque à l'époque l'armée de l'air, le compte sur un réseau social, le compte de l'armée de l'air chinoise avait posté une photo d'un de ses bombardiers, qui est un bombardier à capacité nucléaire, et on voyait au fond de cette photo un mont qui sortait d'un nuage et qui a été identifié comme le mont Yushan, qui est donc au centre de l'île de Taïwan. Et d'après l'angle et la distance entre l'avion et le mont, l'avion se trouvait réellement très près. Peut-être même dans, supposément, j'en sais rien, mais dans l'espace aérien taïwanais. Et donc la diffusion de cette photo sur les réseaux sociaux, qui a été virale et qui a été poussée, amplifiée de manière artificielle sur les réseaux sociaux taïwanais, visait à envoyer deux messages simultanés aux Taïwanais. Et d'une part, vous n'êtes pas défendu, parce que si on peut s'approcher aussi près, c'est que votre défense antiaérienne n'est pas là pour nous empêcher de le faire. D'autre part, pour nous, Taïwan, c'est la Chine. On est là aussi pour vous protéger. Lorsqu'on fait ses patrouilles, on couvre aussi Taïwan, comme la Chine continentale. Pour nous, ça ne fait pas de différence. Donc, deux messages qui peuvent sembler paradoxaux, mais qui sont envoyés et qui ont créé un certain trouble à Taïwan, et une réaction, d'ailleurs un démenti du ministère de la Défense taïwanais à l'époque.
Pas tant que paradoxaux que ça, c'est toujours le même... c'est un peu le même message, qui est qu'on fait ce qu'on veut au-dessus de Taïwan, si tant est que cette photo n'ait d'ailleurs pas été photoshopée, ce qui n'est pas forcément évident dans l'absolu.
Oui, c'est une hypothèse qui a été envisagée. Il semblerait que ce ne soit pas le cas. En tout cas, il n'y a pas eu de démonstration que la photo elle-même a été trafiquée. Ça ne veut pas dire qu'on sait exactement où est-ce qu'elle a été prise et à quelle distance le bombardier se trouvait du mont Yushan. Mais le simple fait de l'avoir diffusée abondamment était fait pour envoyer un message qui est « vous n'êtes pas protégé » et c'est nous, quelque part, qui assurons la protection du ciel taïwanais, qui est un ciel chinois.
Enfin, donc, troisième volet de ces trois guerres, c'est donc la guerre par le droit. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est le troisième volet, sans doute le moins connu, celui sur lequel les Chinois sont le moins explicites. Non pas qu'il n'y ait pas de travaux, il y a des travaux, mais qui sont essentiellement théoriques pour l'instant. L'idée est de façonner l'environnement juridique international à l'avantage de l'APL et aussi de produire un discours de nature juridique qui vient éventuellement légitimer soit des actions passées, soit des actions à venir de l'APL. Il y a ensuite, et ça on le comprend si on garde à l'esprit que ces trois guerres, comme c'est de la guerre politique, ça n'a pas que vocation à s'appliquer en situation de guerre. Il y a aussi des procédures de type des procédures bâillons. Donc des poursuites qui sont engagées contre des journalistes, des chercheurs.
Alors les procédures bâillons, on va simplement dire, c'est pas du tout la Chine qui l'a inventé, c'est quelque chose qui se fait dans le droit anglo-saxon depuis des années. C'est simplement on poursuit vrai ou faux, on poursuit quelqu'un qui a dit quelque chose qui vous déplaît, et a priori si on a plus de moyens et donc d'avocats que lui, à tout le moins ça va le dissuader de recommencer parce que ça va lui coûter très cher. Donc en gros c'est la Chine qui se saisit de cet outil bien connu et qui, en quelque sorte, le met sous stéroïde, parce qu'il y a tout un État derrière cette fois.
Non seulement le dissuader lui, mais aussi les autres, parce que ça fait un exemple. Donc une procédure bâillon, c'est pas seulement en direction d'une personne, c'est utiliser cette personne comme exemple pour dissuader toute une communauté de chercheurs, de journalistes qui travaillent sur la Chine de manière critique. Et la Russie fait la même chose. On a des exemples récents en tête, et il y a même, concernant la Chine, une poursuite... puisque c'est public depuis 2019, Valérie Niquet, donc notre confrère de la FRS, est poursuivi par Huawei France dans le cadre d'une de ces procédures qu'on peut considérer comme étant une procédure bâillon, c'est-à-dire dont l'objectif est d'intimider non seulement Valérie Niquet, mais aussi tous ceux qui voudraient, comme elle, avoir un discours critique sur les liens entre certaines entreprises chinoises et le Parti communiste.
Alors justement, puisque vous en parlez, c'est un élément sur lequel j'aimerais m'attarder une seconde, donc une fois qu'on a vu le cadre global, qui est le fait que tout ça, toutes ces opérations d'influence, reposent, on les détaillera ensuite, mais reposent sur une sorte de sous-couche technique, en quelque sorte, qui est de la collecte d'informations pour constituer des bases de données qui servent à cibler des objectifs pour ces opérations d'influence. Et là, ce que vous décrivez, c'est une sorte de fusion civilo-militaire où il y a tout un tas d'entreprises chinoises qui installent des infrastructures, alors en Occident, mais aussi en Afrique, et aussi ailleurs, et qui vont des réseaux sociaux à la 5G et même aux câbles sous-marins. Et ce que vous décrivez, c'est que c'est autant d'outils de collecte de ces données pour constituer apparemment des énormes bases de données que le pouvoir chinois a, et qui sont en quelque sorte le terreau, le terrain de ces opérations d'influence. C'est à partir de ces bases de données qu'ils savent quoi cibler et comment agir. Jean-Baptiste ?
Oui, pour que les opérations d'influence soient efficaces d'une manière générale, et quel que soit le pays qui les conduit, il faut qu'elles soient bien ciblées. Et donc il faut qu'elles se basent sur une connaissance des cibles qui permettent de faire le choix des cibles, mais aussi le choix des leviers, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va utiliser pour soit les séduire, soit les contraindre, qui sont les deux principales jambes de l'influence, ce qui correspond aux deux axes de notre troisième partie. Et en l'occurrence, ça repose sur un grand nombre de données qui sont captées par différentes manières. Vous l'avez rappelé, les infrastructures. Un exemple qu'on peut donner, c'est par exemple la construction de bâtiments gouvernementaux pour des forces de sécurité et de police, voire des services de renseignement dans les pays d'Afrique, où la plupart des pays africains ont ces bâtiments-là qui ont été construits par des entreprises chinoises. Et depuis le scandale du siège de l'Union africaine à Addis Abeba, où on s'est rendu compte qu'il y avait des micros dans les murs et que la nuit, les serveurs aussi transmettaient les données de l'Union africaine en Chine, eh bien, on peut supposer que...
C'est génial, soit dit en passant, pour raconter l'histoire, ils s'en sont aperçus parce que les serveurs des bâtiments étaient saturés, mais juste la nuit. Exactement. C'est-à-dire quand il n'y avait personne dans les locaux, et du coup, toutes les données étaient transférées, mais la nuit. Donc, effectivement, on peut faire des déductions à partir de là.
Donc, c'était pas très discret. Et comme je disais, c'est pas seulement informatique, il y avait aussi des micros dans les murs. Et donc, depuis ce moment-là, il y a quand même une prise de conscience que les infrastructures, y compris physiques, les bâtiments, peuvent servir à faire de l'espionnage et à accumuler des données. Or, ça n'a pas empêché les années suivantes un grand nombre de chefs d'État africains, voire de gouvernements, de structures étatiques africaines, de se faire construire ce genre de bâtiments par les Chinois. Donc là, ça présente un risque. On peut capter les données de cette manière-là. Une autre manière, c'est bien sûr les câbles sous-marins, où la Chine se positionne de plus en plus. Il y a naturellement les services téléphoniques, les services satellites, et tout ça vient nourrir des bases de données qui sont considérables, également aussi nourries par des formes de stations de recrutement sur place dans les différents pays qui font des fiches et qui envoient des profils ensuite qui sont centralisés à Pékin ou ailleurs en Chine. Et tout ça nourrit des bases de données de plusieurs millions de personnes qui sont des cibles potentielles d'influence parce qu'elles sont dans des cercles soit politiques, économiques, universitaires, des décideurs, où on connaît les préférences des uns et des autres, les différents goûts, les différentes potentielles faiblesses aussi qui peuvent être instrumentalisées ensuite pour des opérations ciblées conduites par les services ou le Front Uni.
Alors maintenant, si on étudie donc le détail de ces opérations précisément, alors évidemment il y a le choix, mais j'aimerais m'attarder une seconde sur le champ qu'on pourrait appeler intellectuel, et notamment une des choses que vous décrivez avec beaucoup de détails, c'est disons un phénomène assez massif à l'université, alors dans des universités, alors un peu en France, mais essentiellement dans les universités anglo-saxonnes, qui sont celles où il y a le plus d'étudiants chinois. Alors, on pense évidemment au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais aussi en Australie, parce que, en fait, pour des raisons de proximité géographique, en fait, il y a beaucoup d'étudiants chinois dans les universités australiennes.
Et de coûts. Ça coûte moins cher de faire ses études en Australie qu'aux États-Unis.
Et donc, on voit apparaître dans toutes ces universités des sortes de pressions en tout genre sur les contenus de l'enseignement, donc des pressions qui viennent de Chine. Alors, expliquez-nous un peu comment ça marche, parce que c'est pas aussi simple que l'idée qu'on a parfois que les étudiants chinois sont autant d'espions potentiels, ou en tout cas que certains sont des agents du parti, ça peut être vrai. Mais ce que vous décrivez, c'est en fait un jeu d'influence et de pression assez complexe qui permettent à court, à moyen et à long terme de peser plus ou moins sur les contenus de l'enseignement supérieur dans un tas de pays non chinois, enfin dans un tas de champs universitaires. Paul ?
Oui, alors c'est effectivement extrêmement complexe, il faut être très nuancé quand on s'attaque à cette question, et d'autant que les processus ne sont pas forcément identiques d'un pays à l'autre. Mais d'une manière générale, disons qu'on a... les acteurs chinois s'appuient effectivement sur la présence d'une grande communauté d'étudiants chinois qui sont mobilisés. Alors, ce qui est difficile, c'est que dans certains cas, on a des preuves que la mobilisation vient, par exemple, d'acteurs du Front Uni ou même de l'ambassade qui interviennent pour faciliter la mobilisation des étudiants. On a eu le cas ici, en France. Moi, j'ai été témoin de mobilisation de mes étudiants par les autorités chinoise.
Et pourquoi quelque chose que vous diriez serait de la calomnie envers le régime chinois, quelque chose comme ça, c'est ça ?
Non, c'est-à-dire que, en fait, le parti va mobiliser les étudiants chinois pour soit faire pression à l'université, par exemple, sur des contenus, sur l'organisation d'événements. Alors, c'est parce qu'il s'agit... En fait, il faut bien comprendre que l'objectif du parti, c'est que partout dans le monde... le discours sur la Chine soit positif. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, on comprend que toutes leurs actions vont dans ce sens-là. Donc il faut éviter que des gens qui ont envie de dire du mal de la Chine puissent s'exprimer. Donc il ne faut pas que le Dalai Lama puisse venir faire une conférence dans une université. Il ne faut pas qu'on organise un colloque qui va parler de ce qui se passe au Xinjiang ou au Tibet. Des partisans des droits de l'homme, des choses comme ça. Voilà. Donc il faut que tout ça ne puisse pas avoir lieu. Donc on peut procéder de différentes manières. On peut opposer un refus de visa aux chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, ce qui est une forme de pression exercée sur eux. On peut, via la mobilisation des étudiants, empêcher la tenue même de ces événements. On peut, via ces étudiants, encore une fois, faire pression dans les cours même sur des enseignants qui décident de traiter de ces questions. On peut aussi, via les instituts Confucius, qui sont, pour une partie d'entre eux au moins, insérés dans les campus, faire pression sur les achats des bibliothèques, ce qui s'est déjà vu sur certains campus, donc le choix des livres, mais aussi sur les programmes de recherche, comme les instituts Confucius finance une partie du budget de l'université, enfin abonde le budget de l'université, ils considèrent qu'ils ont leur mot à dire sur les programmes de recherche, etc. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est dans quelle mesure ces étudiants sont mobilisés par les autorités chinoises ou se mobilisent spontanément, j'ai envie de dire. Et il y a sans doute un peu les deux. Et certains étudiants, effectivement, simplement par nationalisme, parfois par stratégie de carrière. C'est-à-dire que parfois, parce qu'ils sont membres de la Ligue de la Jeunesse Communiste, qu'ils envisagent une carrière dans le parti ou pas, simplement pour être bien vus, ils peuvent mener ce type d'activité. Et parfois, c'est simplement sous la contrainte.
Jean-Baptiste ?
Oui, juste pour compléter, de manière complémentaire à cette pression qui s'exerce sur les acteurs locaux, c'est-à-dire les administrateurs, les enseignants de ces universités-là, voire les autorités via les universités, parce qu'il y a certains pays, et c'est le cas de l'Australie, où le poids des étudiants, en particulier des étudiants chinois dans l'économie, est assez important via l'université. Donc, in fine, ça fait pression sur le gouvernement lui-même. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une forme de pression et d'intimidation qui s'exerce sur les autres étudiants chinois. Et c'est-à-dire qu'il y a des cas qui sont documentés dans le rapport qui sont assez spectaculaires, de cas dans lesquels, dans une classe, certains étudiants chinois ont été dénoncés par certains de leurs camarades, sans savoir d'ailleurs nécessairement lesquels, donc ça crée un climat de suspicion permanent. Et ils se sont rendus compte que, par exemple, après avoir dit ou posé une question, ne serait-ce que poser une question en classe, ou faire une remarque, ou faire un commentaire, 48 heures plus tard, ils recevaient un coup de fil de leurs parents, restés en Chine continentale, qui leur demandaient pourquoi ils avaient posé cette question en classe. Donc ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un dans la classe, via le plus souvent le relais du consulat ou de l'ambassade, puisqu'il y a des liens, via des organisations qui s'appellent les CSSA et qui sont la plupart du temps en lien avec les chargés d'éducation dans les consulats et les ambassades, a dénoncé la personne en question en disant tel camarade a posé une question ou a dit quelque chose qui n'allait pas dans le sens du parti, et que après sur place en Chine les forces de sécurité ou de renseignement ont rendu visite aux parents en leur expliquant ce que leur enfant avait fait, et les parents après évidemment exercent une pression assez naturelle et spontanée sur leurs enfants en disant mais pourquoi tu fais ça, et donc ça place certains étudiants chinois dans la situation de se demander s'ils vont même revenir. Et il y a des cas d'étudiants chinois, notamment en Australie, qui, parce qu'ils sont soumis à ce genre de pression, se demandent si à la fin de leur année universitaire, ils ne vont pas enchaîner avec d'autres moyens de rester en Australie. Et ils se demandent s'ils vont pouvoir revoir dans les prochaines années leurs parents, avec lesquels les relations d'ailleurs se sont en général gâtées, et retourner en Chine, ou s'ils ne risquent pas de se faire arrêter s'ils retournent en Chine. Donc la pression s'exerce aussi de manière horizontale entre les étudiants chinois, entre eux, et pas seulement sur les acteurs locaux, les administrateurs et les enseignants de l'université.
Ça, c'est le domaine donc universitaire. Un autre exemple dont j'aimerais dire un mot, c'est ce qu'on pourrait appeler la sphère politique. Alors, ce que vous décrivez, c'est tout un ensemble d'actions pour peser, disons, sur les paysages politiques occidentaux au sens large. Alors, il y en a en France, évidemment. Il y a des responsables politiques qui sont identifiés comme des relais d'influence chinois dans le rapport. Ça se trouve assez facilement en le lisant. Mais vous décrivez qu'un des laboratoires, en tout cas un des bastions avancés de ces opérations d'influence, c'est notamment l'Europe centrale et orientale, alors notamment la République tchèque. Alors, comment et pourquoi, en quelque sorte, Paul Charron ?
Alors comment là aussi, il y a différents leviers, il y a différents canaux qui peuvent être mobilisés par le parti pour construire cette influence sur les milieux politiques. Le principal canal, c'est le département des liaisons internationales. C'est le département des liaisons internationales qui est rattaché au comité central du PCC, est une structure qui, à l'origine, avait pour mission d'entretenir des liens avec les partis communistes. Donc, par exemple, les relations avec la Corée du Nord sont des relations de parti à parti et pas des relations d'État à État. Et puis, là, avec l'effondrement du bloc soviétique, le DLI a accru un petit peu ses responsabilités, et il est chargé désormais des relations avec tous les partis politiques, quelle que soit leur idéologie. Et c'est ce qu'il fait. Le DLI, donc, entretient des liens, alors dans les démocraties, avec les partis susceptibles de bénéficier d'une alternance politique, dans les régimes autoritaires, avec des oppositions qui sont susceptibles de fomenter des coups d'État. Voilà. Comme ça, les liens sont toujours présents avec les futurs dirigeants potentiels. Donc ça, c'est un canal, si vous voulez, de diplomatie parallèle créé par le parti. Et il y a bien sûr des réseaux qui peuvent être beaucoup plus opaques, beaucoup plus ad hoc, hein, informels, et qui passent par différents canaux, qui peuvent être liés à des relations personnelles de dirigeants chinois avec des dirigeants locaux. Pourquoi l'Europe centrale et orientale ? D'abord parce que c'est plus facile. c'est plus facile qu'en Europe de l'Ouest, parce que il y a aussi une capacité de la Chine beaucoup plus forte à jouer de son levier économique dans ces pays-là. Donc elle peut venir avec des projets d'infrastructures, de gestion des ports, etc., dont ces pays ont besoin pour leur développement, se relever d'une crise économique. Et donc, ces pays-là sont beaucoup plus susceptibles de céder à la tentation que d'autres puissances. Donc, c'est plus facile. Par ailleurs, dans ces pays-là, les débats intellectuels sont aussi, ou politiques, sont aussi plus facilement pénétrables via l'introduction de structures appartenant soit au parti, soit à l'Académie des sciences sociales, par exemple, hein, comme c'est le cas en Hongrie, qui accueille le premier think tank chinois présent à l'étranger, think tank qui participe à la vie intellectuelle locale, au débat politique, et qui, bien sûr, fait la promotion des projets chinois, et en premier lieu, des routes de la soie.
Jean-Baptiste, Jean-Jean Dilbert. Un autre intérêt de l'Europe centrale et orientale, c'est aussi que tous les pays ne font pas partie de l'UE. Et c'est la raison pour laquelle la Chine les a réunis dans un format qu'on appelait, puisque maintenant ils sont plus 17, mais 17 plus 1. Il y a aussi dans ce format, par exemple, des pays des Balkans, par exemple la Serbie, qui est avec la Hongrie le principal ventre mou de l'Europe en termes de pénétration politique et économique et à peu près dans tous les domaines chinoises. Donc ça permettait d'utiliser ces pays pour les convaincre notamment qu'ils étaient maltraités par l'UE ou par les pays européens, et ça permet d'accomplir cette tâche qui apparaît comme un des objectifs de la Chine en Europe, qui est la division. Et c'est aussi l'une de nos conclusions quand on parle de russianisation, c'est ce que les Russes font depuis longtemps. On se rend compte que les Chinois aussi le font. Mais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut ajouter, c'est que c'est en train de changer. C'est-à-dire que l'Europe centrale et orientale, pendant longtemps, était effectivement elle-même une sorte de maillon faible et qui permettait de jouer l'Europe contre elle-même à travers la division entre les membres de l'UE et ceux qui ne l'étaient pas, des pays qui sont plus facilement convaincables, comme l'a expliqué Paul, d'accepter ce qu'on leur proposait. Mais depuis quelques années, c'est moins le cas. Même en République tchèque, en réalité, il y a une forte ambivalence, puisque d'un côté, il y a le président Zeman et quelques ministres qui sont relativement pro-chinois, comme ils peuvent d'ailleurs être pro-russes, ce qui est le cas aussi du gouvernement voisin d'Orban. Mais il y a aussi en même temps le maire de Prague qui oppose une résistance particulière, et on a encadré sur lui dans le rapport. Il y a aussi le président du Sénat qui a conduit une délégation de 90 parlementaires à Taïwan, ce qui a été considéré comme une énorme provocation. Donc en réalité, la société plutôt civile, où certains politiciens locaux en République tchèque sont opposés à cette orientation qui est celle du président. Et par ailleurs, un deuxième exemple, c'est la Lituanie, qui maintenant dirige la fronde contre Pékin. C'est retiré du 17 plus 1. Il y a quelques semaines, le vice-ministre lituanien de la Défense a fait une annonce publique en se basant sur un rapport d'un service de cybersécurité pour dire qu'on ne devait plus en Lituanie utiliser, en tout cas c'est un conseil qui est donné à sa population, les téléphones de marque chinoise, ce qui est quand même un positionnement très fort et assez unique. Le 17 plus 1 est devenu un 16 plus 1, il a été largement dévitalisé, sans doute d'autres pays vont aussi sortir de ce format. Donc en réalité, la Chine, par son attitude des dernières années, par son agressivité, a réussi à se mettre à dos même ce qui était pendant longtemps un des vecteurs de sa pénétration en Europe.
Mais alors c'est en quelque sorte les relais, une manière d'essayer de gagner de l'influence dans les personnels politiques. Et si on pense, enfin si on pose la question, disons des actions plus directes qui pourraient avoir lieu. Alors c'est le parallèle évidemment avec la Russie, puisque vous l'avez rappelé, ce rapport-là est sorti d'un précédent qui s'intéressait aux ingérences directes, notamment de la Russie, dans les cycles électoraux, par exemple. C'est quelque chose que vous détaillez, il y a tout un cas d'études très très détaillé sur c'est ce qu'ils ont fait à Taïwan dans des élections récentes. Est-ce que, bon, Taïwan, en même temps, on comprend bien que c'est un peu particulier pour la Chine et que c'est un intérêt particulier, est-ce que ils voient plus loin, quelque sorte, est-ce que c'est quelque chose auquel ils pourraient s'essayer au-delà de ce cercle immédiat de qu'est Taïwan, que pourrait être Singapour, Hong Kong, etc., c'est-à-dire des pays à proximité immédiate, est-ce que des opérations d'ingérence chinoise dans des cycles électoraux sont des choses qui sont envisageables ? Jean-Baptiste.
Mais c'est déjà pratiqué. C'est-à-dire que dans le rapport, on donne des exemples en Australie et au Canada, notamment, où il y a des exemples documentés de lettres, notamment, qui ont circulé sur les réseaux sociaux, voire d'électeurs qui ont été payés. Dans le cas canadien, notamment dans certaines banlieues de Vancouver et Toronto où il y a une forte diaspora chinoise, qui ont été payées pour voter pour tel candidat. Et ça, c'est considéré, y compris par les services de renseignement canadiens et australiens, de manière plus ou moins explicite, comme une forme d'ingérence électorale. Donc déjà, il ne s'agit plus de dire que c'est quelque chose qui se passe uniquement dans l'étranger proche à Taïwan et Hong Kong. C'est déjà quelque chose qui s'est vu, qui a été documenté en Australie et au Canada. Donc c'est quelque chose qui est certainement reproductible, y compris à l'avenir en Europe.
Pour compléter la réponse, il n'y a aucune raison de penser que les Chinois, même si, comme l'a dit Jean-Baptiste, on voit déjà des choses en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, il n'y a aucune raison de penser que l'ampleur des opérations et des ingérences électorales menées à Taïwan n'arrivera pas un jour en Europe et en Amérique du Nord.
Oui, si ce n'est qu'ils ont un intérêt évidemment très direct à tout ce qui se passe à Taïwan, puisqu'il y a les questions de réunification, on peut supposer que c'est un intérêt moins direct, c'est peut-être une proie moins facile que sont les pays, les démocraties occidentales, et que donc ça demanderait aussi beaucoup plus de moyens que de s'y investir pour des résultats qui ne seront pas forcément évidents, en tout cas à moyen terme.
Le contexte, un contexte particulier pourra justifier une ingérence massive du Parti communiste chinois dans une élection. Et à vrai dire, plus il y aura de résistance et plus il y aura de réactions en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs face à ces opérations d'influence chinoise, et plus vraisemblablement, la Chine sera obligée de mobiliser des moyens durs et sophistiqués pour répondre à ces résistances.
Deux remarques là-dessus. La première, c'est qu'une réticence que les Chinois pouvaient avoir il y a quelques années, c'est le risque réputationnel dans ce genre d'opération que les Russes assument, puisque ça fait même partie de leur ethos d'une certaine audacité. Ils pratiquent l'ingérence électorale et ils n'en ont pas honte quelque part. Ça correspond aussi à l'image qu'ils veulent projeter de leurs services de renseignement. Or ça a changé. C'est-à-dire que les Chinois assument maintenant, c'est la thèse qu'on défend ici, pourquoi on parle d'un moment machiavélien, les Chinois assument maintenant davantage, et du coup, de manière plus proche des Russes, d'être craint plutôt que d'être aimé. Donc le risque réputationnel, je crois qu'il serait capable de l'assumer lors d'un cas d'ingérence électorale. Et la deuxième remarque, c'est qu'il ne faut pas penser en termes seulement purement géographiques, c'est-à-dire que l'étranger proche peut être loin et réciproquement. En ce qui nous concerne, nous, il faut penser pas seulement aux élections sur le territoire métropolitain, mais aussi au référendum, et notamment le 12 septembre, au référendum en Nouvelle-Calédonie. Pour eux, c'est leur arrière-cour. Le Pacifique Sud, c'est très important pour eux, et pour nous, c'est la France. C'est pas l'un ou l'autre. En réalité, les deux sont déjà liés.
Soit dit en passant, les auditeurs pourront voir... Vous expliquez très bien pourquoi vous appelez ça un moment machiavélien. On vous sait pas très gré, ça change un peu de tous les moments clausewitziens. Enfin, on change un peu de référence. C'est extrêmement positif. Il faut qu'on avance, mais évidemment, il y a un tas de cas d'études, il y a un tas de secteurs. Je recommande notamment tout ce qui est sur le cinéma américain, parce que c'est les pressions et les modalités de censure et la manière dont le pouvoir chinois réussit à censurer, à bloquer ou à développer d'autres discours, disons, dans le cinéma américain est très exemplaire de ce que peut faire la Chine, notamment par sa puissance économique, pour influer sur les discours au-delà de ses frontières. Mais maintenant, j'aimerais qu'on dise peut-être un mot de la phase dans laquelle on est là. C'est-à-dire qu'on peut associer un renouveau de l'influence chinoise, voire un regain d'agressivité. Vous en parliez tout à l'heure, Jean-Baptiste, c'est ce qu'on appelle parfois les loups guerriers sur la scène diplomatique, qui est une référence évidemment au chef-d'œuvre cinématographique qui est Wolf Warrior, dont on avait fait une émission avec Pierre Aski. Je recommande évidemment le visionnage de Wolf Warrior, notamment le 2, qui est bien meilleur que le premier. Bref, mais globalement, il suffit de passer 30 secondes sur le compte Twitter de l'ambassade de Chine en France pour voir de quoi il s'agit. C'est une sorte de mélange d'agressivité envers les personnes qui critiquent la Chine. On sait que le chercheur Antoine Bondaz de la FRS en a fait les frais il y a quelques mois, et on était même dans le registre de l'insulte directe. C'est un mélange de ça et d'indignation outrée sur le registre du racisme, des préjugés anti-chinois, sur le fond, par exemple, quand on parle de la situation des Ouïghours au Xinjiang. Donc, C'est-à-dire, à quoi est-ce qu'on explique ça, ce moment, cette motivation, ce changement de ton, et est-ce que ça marche? Paul Charron.
Alors, il y a uniquement pour le phénomène des loups guerriers, ou la posture d'ensemble.
On peut considérer que c'est le symptôme de quelque chose de plus profond.
Oui,
on,
oui, alors ça, c'est difficile à dire pour l'instant. Je pense qu'il faut peut-être être un petit peu prudent. Ça peut être le symptôme d'un changement d'ensemble. Ça peut être aussi un épiphénomène qui ne durera peut-être pas. Enfin, on ne sait pas trop. Enfin,
quelques ambassadeurs particulièrement motivés comme notre cher ambassadeur.
Oui, c'est-à-dire que, comme on l'explique dans le rapport, même si il n'y a pas de raison que ces ambassadeurs arrêtent. Sauf s'il y avait un changement de ligne à Pékin et qu'il y avait des sanctions et que là forcément ils seraient contraints à changer de ligne, mais c'est vraiment une stratégie de carrière individuelle, et si ça paye on pourra continuer d'observer ce type de comportement. De ce point de vue là ça peut être considéré comme quelque chose d'assez marginal au regard du reste. Par ailleurs, il faut bien comprendre que le ministère des Affaires étrangères en Chine, dont relèvent ces diplomates, c'est une administration extrêmement faible et qui fait pas grand chose à part informer les dirigeants chinois de ce qu'ils peuvent voir, entendre, lire via leur poste à l'étranger. Mais c'est pas une structure de décision et c'est pas véritablement une structure qui participe aux opérations d'influence pour ce qui nous intéresse.
Mais là où c'est intéressant, c'est que ça renvoie aussi à ce qu'on disait au début sur les stratégies de fonds unis, c'est qu'en fait c'est pas forcément nous le public, même s'ils tweetent en français, c'est peut-être plutôt les communautés, la diaspora chinoise francophone qui peuvent se sentir, disons, motivé ou stimulé, disons, par ce genre de discours. Mais là où c'est intéressant, c'est que tout ça repose en ligne aussi sur une stratégie de masse dont il faut qu'on parle, qui est des comptes vrais ou faux sur les réseaux sociaux, mais qui reprennent les arguments et les cibles aussi de ces pouvoirs publics chinois, notamment dans leurs expressions. Alors c'est ce qu'on a parfois appelé l'armée des 50 centimes, donc vous nous expliquerez que c'est pas une bonne expression, mais donc expliquez-nous en quelque sorte comment ça marche, c'est-à-dire quel est ce soubassement presque numérique de ces opérations d'influence chinoise, cette espèce de caisse de résonance organique, quoi.
Alors oui, en fait, alors ce qu'on appelle, enfin pas nous, hein, c'est une expression qui a été forgée il y a quelque temps déjà et qui effectivement n'est pas forcément la plus appropriée, mais l'armée de 50 centimes, c'est essentiellement un outil interne d'abord. Hein, Chinois qui sont payés par le parti pour influencer ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire et sur l'Internet d'une manière générale. Ça peut être aussi sur des forums de discussion, etc. Donc, par exemple, en noyant, ils sont chargés de diffuser des messages pour noyer dans la masse les messages plus négatifs. C'est pas seulement de la censure, c'est aussi simplement une occupation du terrain, si je puis dire, certains étant aussi chargés, bien sûr, de la censure. Et on peut observer ce type de pratique aussi à l'étranger, sur les réseaux sociaux, via différents canaux, différents outils. Il y a une opération qu'on décrit dans le rapport qui se passe en Corée du Sud, où opération qui est vraisemblablement attribuable à la Ligue de la Jeunesse communiste, et qui a mobilisé à la fois les étudiants chinois présents en Corée du Sud et des citoyens chinois vivant en Corée du Sud, pour aller soutenir donc sur le site de la Maison Bleue, le système de pétition en ligne de la Maison Bleue, pour aller soutenir le président Moon Jae-in, qui était mis en difficulté par une pétition qui demandait son départ suite au soutien de la Chine dans le cadre de la Covid, le fait que la Corée du Sud avait décidé de garder les frontières ouvertes, ce qui a accéléré la propagation de l'épidémie. Bon, il y a eu une seconde pétition. À l'instigation de la Ligue de la Jeunesse communiste, et qui demandait aux citoyens chinois d'aller soutenir le président Moon Jae-in. Donc qui est une forme d'ingérence, là aussi, dans les activités politiques, dans la vie politique sud-coréenne.
Mais alors d'ailleurs, puisque donc on voit cette réactivité, cette agressivité, à la fois par des personnes clés comme des ambassadeurs et en même temps par une masse qui est derrière, on peut passer, disons, à une dimension un peu plus méta. Comment est-ce qu'ils ont réagi à la publication du rapport? C'est-à-dire qu'est-ce que ça a donné? Puisque c'est un rapport qui a dû les intéresser vaguement à un moment ou à un autre. Jean-Baptiste Jean-Jean Villemer.
pas grand-chose. Un communiqué prévisible sur le site de l'ambassade qui dit lui-même pas grand-chose.
Ah, il est génial ce non, je peux vous laisser dire. Il est génial ce communiqué. Il dit bah alors, donc c'est un rapport qui a tort parce qu'il n'a pas raison et qui ment parce que tout ce qu'ils disent est faux. Enfin, rhétoriquement, c'est implacable le démenti qui vous est opposé.
Oui, et puis il y a une forme de tu quoque, c'est-à-dire c'est pas nous, c'est vous. Enfin, vous dites qu'on désinforme, mais en réalité, c'est vous qui désinformez. Mais ça ressemble en même temps à une forme de pétition de principe. C'est absolument pas démontré et c'est pas argumenté, mais. On ne s'attendait pas non plus à autre chose.
Hein. Oui, non, mais l'ambassadeur a avoué de toute façon dans son interview sur Thinkerview qu'il n'avait pas lu le rapport et que son équipe non plus. Donc je pense que la réaction a été uniquement construite sur la base des articles parus dans la presse.
Mais alors, au-delà d'eux, on peut dire que bon, voilà, vous identifiez, disons très nommément, les relais de cette influence en France et ailleurs. Et donc il y a tout un gradient qui va du partenaire ponctuel aux idiots utiles de la propagande chinoise. Alors évidemment, c'est pas spécialement flatteur pour ceux qui sont identifiés. Mais donc, qu'est-ce qui est revenu donc depuis les publications ? Il y a eu bon, certaines controverses, mais voilà, qu'est-ce qui est revenu et comment est-ce que vous appréhendez en quelque sorte le débat qui s'est créé ou pas ? Autour de ce que vous avez identifié, parce que vous n'êtes pas vague, vous êtes très précis dans ce que vous identifiez. Jean-Baptiste ?
Essentiellement comme un faux débat, c'est-à-dire un déplacement du débat vers autre chose. Est-ce qu'on peut caractériser en argumentation d'un sophisme de l'épouvantail ou de l'homme de paille qui consiste à caricaturer une position pour mieux la réfuter. En réalité, ce qu'on nous a répondu, c'est « nous ne sommes pas pro-Pékin » ou alors « nous dialoguons avec la Chine et vous proposez de ne pas le faire, vous voulez couper tout contact, vous êtes des occidentalistes, etc. » Il faut noter que nous, on se garde bien d'attribuer des ismes et qu'on ne dit pas que les autres sont ceci ou cela. En réalité, on ne dit jamais dans le rapport que les acteurs en question sont ou seraient pro-chinois. On ne le présume même pas et la vérité est qu'on ne le pense pas. On sait très bien qu'ils sont pluralistes et qu'ils peuvent en même temps collaborer assez concrètement avec l'ambassade de Chine ou les autorités chinoises, en l'occurrence des différentes agences du Parti communiste, et en même temps avoir des relations avec les États-Unis, voire Taïwan, et en même temps aussi avoir un discours critique sur la Chine, etc. Tout ça n'est absolument pas gênant du point de vue de Pékin, tant que cette collaboration offre un canal d'influence efficace. Et ce canal d'influence est d'autant plus efficace que vous êtes pluraliste, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas être taxé ou sembler pro-chinois. Donc le pluralisme, en réalité, n'est aucunement une objection, une réponse à l'objection, puisque ça n'annule pas ce que, par ailleurs, vous faites avec l'ambassade. Et notre position à nous n'est pas qu'il ne faut pas travailler ou rencontrer, serrer la main des Chinois, les recevoir lorsqu'ils viennent en délégation, aller soi-même en mission en Chine, puisqu'on l'a fait. Il faut être très clair là-dessus, et j'ai posté moi-même des photos sur Twitter qui le prouvent, puisqu'on en est là. Il faut prouver qu'on parle chinois. On a reçu ici des délégations.
Des uniformes très impressionnantes. C'est des photos dont on se souvient. Ils ont beaucoup de médailles.
Mais absolument, c'est la raison pour laquelle je les ai postées. Donc, on a reçu ici des délégations de la PL. Ça s'est d'ailleurs très très bien passé. Ils sont venus nous présenter, nous parler du livre blanc chinois. C'était en 2019. On a déjeuné ensemble, on a échangé, on a fait des missions en Chine depuis des années. Le problème n'est pas de parler aux Chinois, y compris aux autorités chinoises, y compris même donc à l'armée populaire de libération. Le problème est de leur offrir une caisse de résonance. C'est pas du tout la même chose. Le problème est de servir leur propagande. Lorsque vous recevez une délégation en privé, porte close, vous avez une réunion avec eux, vous pouvez leur dire, d'ailleurs, de manière complètement franche, que vous n'êtes pas d'accord avec eux, sans risquer de mettre en péril un partenariat puisque vous ne l'avez pas. C'est pas du tout la même chose que lorsque vous organisez un événement public avec l'ambassade, ou lorsque vous écrivez dans une revue qui est une revue du département de propagande du Parti communiste. Dans un cas comme dans l'autre, vous servez la propagande du parti, vous servez de caisse de résonance, que vous le vouliez ou non d'ailleurs. Et ce qu'on dit n'est pas que ces gens-là, les acteurs français en question, le veulent. On ne dit pas qu'ils le veulent, on ne présume pas pour autant qu'ils seraient pro-chinois, je reviens là-dessus. Donc c'est un faux procès qui nous est fait. On dit que vous le vouliez ou non, de fait, de facto, vous contribuez à l'influence chinoise en France lorsque vous ouvrez ces canaux, qui sont des canaux publics, et lorsque vous servez de caisse de résonance à ces discours.
Mais justement, enfin, ce qu'on pourrait vous objecter, enfin, c'est-à-dire, on pourrait remettre en perspective tout ça. Si on remet en perspective tout ça, c'est-à-dire, on a dit que c'était évidemment des actions qui s'inspiraient de ce qu'a pu faire la Russie, par exemple, ce que fait la Chine. Aussi, ce qu'on apprend en vous lisant, c'est qu'un grand modèle pour la Chine, sont les États-Unis, qui pour eux sont les maîtres dans les trois guerres que vous décriviez. Et bon, voilà, l'une des principales objections qu'on peut vous opposer, c'est ce qu'on pourrait appeler l'argument relativiste, à savoir que tout le monde fait des opérations d'influence. Par exemple, vous parlez des instituts Confucius, voilà, qui sont des instituts donc, culturels et linguistiques chinois qui sont des relais d'influence. La France a des instituts français, l'Allemagne a des instituts Goethe, l'Espagne des instituts Cervantes, etc., etc. Même chose, vous relevez les programmes Young Leader, par exemple, qui sont la Chine qui essaye de repérer des gens qui seront dans les milieux dirigeants dans 10 ou 20 ans et de les fidéliser. Le programme Young Leader, le nom l'indique bien, c'est les États-Unis qui font ça, et très bien, et puis depuis très longtemps. On pourrait aussi parler des collectes de données, des pressions économiques et diplomatiques, de l'utilisation du droit. Tout ça, ce sont des choses que les États-Unis font très largement et depuis longtemps, et pas que d'ailleurs. Donc voilà, quelle est la spécificité, qu'est-ce qui vous paraît particulièrement problématique ou non dans le fait que ça vienne de la Chine dans ce cas-là?
Alors, on ne dit pas que c'est plus problématique dans le cas chinois que dans les autres cas. Il se trouve que moi, en tout cas, je suis spécialiste de la Chine. Je ne me vois pas faire un rapport sur les États-Unis, la Russie ou la Turquie. Mais donc je travaille avant tout sur les sujets pour lesquels je suis compétent. Et l'IRSEM ne travaille pas uniquement sur la Chine. Il y a eu d'abord le rapport sur la Russie. Et puis je rappelle qu'ici, on a un chercheur qui s'appelle Maud Kessar et qui travaille sur les opérations d'influence américaine, en tout cas sur la diplomatie publique américaine. Donc l'ensemble des sujets, en tout cas ceux qu'on peut traiter, ceux qui semblent importants parce qu'ils sont, ils viennent d'acteurs importants sur la scène internationale, sont traités à l'IRSEM. Donc je crois que c'est un faux procès, voilà, à nous dire que à quand un rapport sur les États-Unis, à quand un rapport sur je ne sais quel autre pays, c'est déplacer le problème. Là, on a réalisé un travail qui porte sur la Chine, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres travaux ensuite sur d'autres puissances. Après, cela étant dit, il y a malgré tout, je pense, une différence de taille. Dans le cas chinois comme dans le cas russe, et comme je le disais au début, il y a une volonté révisionniste, il y a une volonté de changer le système international. Et on peut, bien évidemment, il ne faut pas être naïf, et les Américains défendent leurs intérêts et portent atteinte aux nôtres, on nous l'a rappelé il n'y a pas si longtemps. Et personne n'a l'intention de cacher ce type d'activité. En revanche, on partage avec les États-Unis un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'institutions inspirées de la même philosophie politique. Ce qui n'est pas le cas avec la Chine, ce qui n'est pas le cas avec la Russie. Et un système, si le système, l'ambition chinoise devait se réaliser, c'est-à-dire qu'on finisse avec un système international dominé par la Chine en lieu et place des États-Unis, on ne vivrait sans doute plus dans la même situation qu'aujourd'hui. On aurait une progression massive de l'autoritarisme, une restriction des libertés, de nos capacités d'action, etc. Et ça, il faut en avoir conscience.
Enfin, ça pose donc aussi la question de ce qu'on conclut du rapport, notamment en termes de statut et de perception donc du régime chinois. C'est-à-dire, voilà, au terme de ça, qu'est-ce que c'est pour vous la Chine? C'est dans le contexte actuel. Est-ce que c'est un éventuel partenaire? Est-ce que c'est un compétiteur? Est-ce que c'est un adversaire? Parce que c'est une critique qui a pu vous être faite, disons d'être pris dans l'idée d'une guerre froide américano-chinoise, qui est une idée qui existe vraiment aux États-Unis. Et voilà, ce serait l'idée que ce genre de rapport, ce genre de truc, ça fermerait la voie à ce qu'on pourrait appeler une troisième voie, qu'on labellise parfois peut-être un peu hâtivement gaulliste. Enfin, si l'idée que, voilà, la France aurait un truc, elle pourrait se mettre entre ces deux blocs qui se forment, et que on disons, critiquer la Chine, en tout cas mettre en évidence ces opérations-là, ce serait automatiquement se mettre dans un bloc alors qu'il y aurait une voie indépendante à trouver peut-être pour la France ou pour l'Europe. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, voilà, au terme de ça, comment est-ce qu'on perçoit la Chine en termes de partenariat ou de rivalité? Jean-Baptiste Jean-Jean Milmer.
Déjà, pas comme un ennemi, et on a été clair parce qu'on avait anticipé cette objection assez naturelle. Dès l'avertissement, on a fait un avertissement au rapport pour expliquer précisément qu'il ne fallait pas concevoir la Chine dans une logique d'ennemi, dans une logique de bipolarité, dans une logique d'exclusion. Et que ici, d'abord, on ne parlait pas de la Chine, on parlait du Parti communiste chinois, du Parti-État, du régime, et non pas de la population ou de la société chinoise, et qu'il ne s'agissait pas d'en faire un ennemi. Ensuite, je crois que le positionnement de l'Union européenne est assez clair en disant c'est tout à la fois. C'est-à-dire, on peut dire c'est un rival stratégique, c'est un compétiteur, mais ça peut aussi être un partenaire. Le problème est la segmentation, c'est-à-dire qu'il y a certains sujets, notamment la lutte contre le réchauffement climatique, où non seulement on n'a pas le choix que de travailler avec la Chine, mais où même la Chine peut faire des choses très intéressantes et très importantes, et a une capacité de changer le monde, littéralement, très grande, qu'il faut prendre en compte, et c'est la raison pour laquelle il faut travailler avec eux. Donc elle est tout à la fois rivale, compétiteur et partenaire. Je ne crois pas qu'il y ait à choisir là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas un ennemi. Il ne faut surtout pas la considérer comme un ennemi. Donc on n'est pas, en tout cas nous, dans une logique de guerre froide.
Paul Charron ?
Oui, juste pour compléter, je pense qu'il faut abandonner cette pensée magique qui consiste à croire que parce que nous frayons avec les Chinois, parce que nous commerçons avec eux, ils finiront par nous ressembler. Ça, ce n'est pas vrai. Cela nous empêche pas de coopérer sur un certain nombre de sujets liés notamment aux biens publics mondiaux dont Jean-Baptiste vient de parler. Mais pour le reste, la Chine est plus souvent un rival qu'un partenaire.
Et il faut aussi se déniaiser sur l'hostilité de certaines de ces actions. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a écrit ce rapport. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on considère que la Chine est tout à la fois un rival, un compétiteur, un partenaire, que il faut pas avoir conscience de ces actions hostiles en matière d'opérations d'influence qui sont parfois clandestines. Et il faut les révéler. Il faut cesser de s'auto-censurer. Parce que l'autocensure est quand même quelque chose de très répandu, surtout compte tenu du fait que la Chine est un partenaire, y compris un partenaire commercial important, donc ça peut susciter beaucoup d'autocensure dans nos sociétés, y compris parmi nos élites, et c'est la raison pour laquelle maintenant il faut parler, dénoncer les pressions dont on est l'objet lorsqu'elles arrivent de la part des autorités chinoises. C'est ce qu'on appelle à la fin, dans la conclusion, le réveil français. On a un long encadré sur le réveil français qui explique que depuis à peu près 2019, avec une accélération en 2020-2021, il y a une séquence d'événements, d'épisodes qui montrent que, enfin, plus tard que les autres, la France prend conscience du fait qu'il y a un problème avec l'influence chinoise. Donc on peut tout à la fois considérer la Chine comme un partenaire parfois, un rival, un compétiteur, mais aussi ne pas être naïf. Et c'est ça l'enjeu, c'est la raison pour laquelle on a fait ce rapport. Aussi ne pas être naïf sur la réalité de ces opérations d'influence et ses intentions qui sont pas tout à fait amicales.
Merci beaucoup à tous les deux, donc Jean-Baptiste Jean-Jeanne Filmer et Paul Charron. Je rappelle donc ce rapport qui est librement téléchargeable sur le site de l'IRSEM et intitulé « Les opérations d'influence chinoise, un moment machiavélien ». Je répète aussi qu'il ne faut pas se laisser intimider par le volume total. On navigue très facilement à l'intérieur de partie en partie sans se sentir perdu. Et on suivra évidemment la suite des répliques à ce rapport dans les semaines et les mois qui viennent. Sait-on jamais, peut-être que l'ambassadeur de Chine en France finira par le relire. Ce serait évidemment très intéressant. Donc, merci beaucoup à tous les deux.
Merci Alexandre.
Merci.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que tous les retours sur l'émission sont les bienvenus, même les trolls chinois qui nous écoutent. Vous pouvez nous écrire par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, et on lit toujours cela avec intérêt. N'hésitez pas aussi à parler de l'émission et de ses différents formats autour de vous. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.